Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudra être fou pour provoquer l'avenir.
La scène est rapportée par Valéry Giscard d'Estaing lui-même dans le troisième tome de ses mémoires. Nous sommes en mai 1981, à quelques jours du deuxième tour de l'élection présidentielle qui doit opposer Giscard et Mitterrand. Jacques Chirac, qui s'était présenté contre le président sortant au premier tour, n'a obtenu que 18% des votes. Pour toute consigne, au deuxième tour, il ne demande à ses électeurs que de voter selon leur conscience, en ajoutant que bien sûr, à titre personnel, il ne pouvait que voter pour M. Giscard d'Estaing. Giscard appelle alors la permanence de Jacques Chirac. Il déguise sa voix en posant un mouchoir sur le combiné et demande à parler à un responsable. « Je voudrais savoir comment voter dimanche », demande-t-il. À l'autre bout du fil, une voix masculine, dont on ne connaîtra pas l'identité, lui répond sans hésiter « Il ne faut pas voter Giscard, on a bien dû vous le dire ». Giscard insiste, demande s'il faut s'abstenir ou mettre un bulletin blanc dans l'urne. La réponse ne se fait pas attendre, il faut voter Mitterrand. Des années plus tard, en 1995, VGE découvre les dessous de cette trahison. Alors que Mitterrand est sur le point de mourir, Giscard se rend à son chevet. L'ancien président socialiste lui parle de sa rencontre avec Chirac quelques jours avant l'élection. Le pacte électoral que les deux scellent ce soir-là permet, entre autres, à Mitterrand de battre Giscard au second tour. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, trois autres histoires de trahison sur d'autres scènes, l'intimité, le monde du travail ou l'amitié. C'est jusqu'à 14h sur France Culture et ce sont des récits préparés par Delphine Dilly.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je sais aujourd'hui, ou je crois savoir aujourd'hui, ce que c'est que la trahison. Elle s'appelait Mario, ce qui est un nom très rare en japonais. Je crois que ça veut dire la vérité. Il paraît qu'il y avait que... C'est son grand-père qui a voulu la déclarer comme ça. Il paraît que ça existe très peu, c'est rarissime. Et moi, je l'appelais par abréviation Mabo. Rencontrant cette japonaise, ça a été l'espèce de clash, si vous voulez, que j'avais jamais connu. Je retrouvais, je crois, enfin, une espèce d'âme d'adolescent. Parce que, je veux dire, cette femme m'a, par exemple, dit des mots d'amour ou érotiques que jamais je crois. Enfin, même en vivant intensément les choses, personne, je crois, ne me dira. Par exemple, elle me disait « Je ne veux pas que tu meures avant moi ». Alors, j'ai été stupéfait parce que c'était venu spontanément comme ça. Je disais, mais... Alors, je souriais un peu. Je disais « Écoute, j'ai 12 ans de plus que toi. C'est peut-être dans l'ordre des choses, c'est normal ». Non, non, je veux pas. Alors, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut être si heureux avec une femme qui vous donne tout? À la limite, je pourrais dire aujourd'hui que, je dis pas que la vie est mal faite, mais que les choses auraient dû s'inverser. Cette japonaise aurait dû être mon premier amour. Si j'avais 30 ans aujourd'hui, je pourrais plus facilement m'en remettre. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que pendant 7 ans, il n'y a eu aucune trahison, je le pense vraiment, pas d'à côté, etc. Et j'ai vraiment difficilement compris, et aujourd'hui encore, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis peut-être confiné, pris dans cette douleur, c'est que je n'ai strictement, ou quasiment, peut-être pas strictement, parce qu'évidemment j'ai remué toutes les hypothèses, quasiment rien compris à ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, j'ai vécu 7 ans avec cette femme, sans qu'on se fasse la moindre petite crasse. Et si je dis trahison, c'est que ce qui m'est arrivé, elle m'a dit à ce soir, elle n'est pas rentrée.
Les pieds sur terre.
Oui, bonjour. C'est bon, vous êtes sorti de réunion ? Moi, je veux bien qu'on revienne ensemble sur les différents tableaux. Les documents, je les ai, les échanges de mails et ce qu'on vous a adressé, j'ai à peu près compris. Attendez, juste excusez-moi, pardon, j'ai le téléphone qui sonne. Oui, allô. Quand j'étais petit, je voulais être palefrenier parce que j'adorais les chevaux et donc je voulais travailler absolument avec les chevaux. Ce qui n'avait absolument rien à voir avec la profession que j'exerce aujourd'hui. En stage de troisième, on fait un stage donc dans la vie professionnelle pour la première fois. On découvre le monde professionnel, le monde du travail. Et moi, je l'ai fait dans un cabinet d'avocat, dans une petite structure. Et il y a quelques années, il y a peut-être 4 ou 5 ans, j'ai retrouvé mon rapport de stage qui fait 4 pages. Et je me souviendrai toujours de cette conclusion quand j'avais 15 ans, qui est de dire « c'est décidé, jamais je ne serai avocat ». Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Déjà, dès le collège, j'ai souvent été délégué de classe. Donc ça me plaisait bien, avoir le rôle un peu de délégué. Alors après, j'ai des parents qui nous ont toujours beaucoup associés à leurs discussions, à leurs débats. Ça discutait tout le temps, tous les soirs, autour de la table. La télé n'était jamais allumée et on discutait toujours de l'actualité, de nos journées, de ce qu'on pensait, de différentes choses, depuis tout petit. Je ne sais pas si être avocat, c'était totalement ce que je voulais faire. Faire du droit, oui. En tout cas, ça collait bien à mes convictions, ça collait bien aussi à ce que je voulais faire de ma vie, c'est-à-dire me rendre utile, avoir une certaine utilité dans mon métier. Et je pense qu'en étant avocat et en permettant d'assister, de conseiller des gens, de les rétablir dans leurs droits lorsqu'il le faut, je pense que ça collait parfaitement avec ce que je voulais faire. Alors donc c'était un moyen de m'accomplir aussi en tant que personne. Donc j'ai fait mes études de droit à la Sorbonne à Paris 1 et dans le cadre de mon Master 2, j'ai été amené à commencer à faire des stages dans des cabinets d'avocats. Les cabinets d'avocats qui sont souvent associés aux filières d'excellence des grandes facultés de droit sont de gros cabinets d'avocats, des cabinets d'avocats d'affaires qui défendent principalement des multinationales ou de grandes sociétés du CAC 40. À la fin de mes études de droit, j'ai été recruté par un de ces cabinets et donc j'y ai exercé la profession d'avocat pendant 2 ans. Je pense qu'il y a une forme de pression qui n'était pas familiale pour moi, mais sociétale, qui fait qu'être embauché dans un cabinet d'affaires reconnu, c'est très gratifiant pour soi. Et donc j'étais très content d'être embauché dans ces cabinets. Alors même que je ne les connaissais pas forcément, mais simplement le fait de pouvoir y associer mon nom me plaisait énormément. Et m'a beaucoup plu. C'est comme une relation. C'est les premiers jours ou les premiers mois où on est très content. Finalement, on ne voit pas forcément tous les côtés de la personne. Mais le début, en tout cas, est toujours très beau. Quand j'ai commencé à travailler dans ce cabinet, j'avais 22 ans. Et j'étais persuadé de pouvoir m'y épanouir. La formation me plaisait beaucoup. La technicité me plaisait beaucoup également. Les enjeux financiers des dossiers sur lesquels je travaillais étaient très importants. Et donc, quand on est tout jeune avocat, qu'on sort de l'école et qu'on peut se dire, voilà, je travaille sur des dossiers qui ont plusieurs millions d'enjeux et avec des patrons qui me laissaient voir des opportunités de carrière importantes. Donc, j'étais très à l'aise à ce niveau-là. Lorsque j'ai commencé à prendre un peu plus d'autonomie dans mon travail, ça m'est arrivé de me retrouver face à des clients qui me demandaient tout simplement de trouver tous les moyens juridiques possibles pour licencier quelqu'un, et ce, peu importe le motif. Et donc venir contourner la loi d'une certaine manière, ou en tout cas utiliser la loi au mieux, pour pouvoir arriver à un but qui est probablement illégitime et injuste. Tout est une question de rationalisation des coûts et de temps. Moi, je passais beaucoup de temps à faire des tableaux avec une évaluation des risques en termes de coûts et en termes de temps. Et en fonction, on prenait la décision de licencier ou non. Il y a une autre partie de mon travail qui consistait à faire très régulièrement de l'optimisation sociale. C'est-à-dire, c'est comme de l'optimisation fiscale, mais pour les cotisations sociales. C'est-à-dire, essayer de trouver un maximum de niches pour pouvoir faire bénéficier mes clients d'exonération de cotisations sociales à travers des montages juridiques. L'horaire de travail dans ce type de cabinet, c'est 60 heures par semaine. C'est avoir un téléphone portable allumé en permanence. C'est être disponible tous les soirs jusqu'à 23h au minuit s'il le faut. C'est être disponible également le week-end s'il le faut. C'est rentrer après 22h tous les soirs chez soi. Et on a une très belle rémunération pour venir finalement compenser cette disponibilité qui doit être permanente. Mais c'est sûr que c'est un travail qui est épuisant, des heures non comptées. Moi, ça m'est arrivé, j'étais dans un bureau avec deux autres personnes et ça m'est arrivé d'avoir, pas moi, mais mon collègue sur le bureau d'à côté qui, à 14h ou à 15h, se mettait sous le bureau pour faire la sieste. Pour une entreprise qui compte 1000-1200 avocats, l'une des choses est donc d'augmenter au maximum le chiffre d'affaires. Et puisque les clients sont facturés à l'heure travaillée, le système de travail, c'est de remplir des timesheets qui sont des cahiers de temps et donc au quart d'heure près, toute la journée, il faut indiquer ce que l'on fait. C'est-à-dire que lorsque l'on écrit un courrier ou un courriel qui dure 17 minutes, on rentre 17 minutes travaillées. Lorsque l'on passe du temps sur des conclusions et que ça dure 2h25, il faut écrire 2h25. Et donc on a des chronomètres qui sont en permanence ouvert sur nos écrans d'ordinateur et qui enregistre le travail fait avec aussi des webcams qui nous regardent toute la journée. Voilà. Et à la fin de la journée, il faut avoir rentré tant d'heures facturées pour le cabinet. Si on ne l'a pas fait, c'est aussi une forme de stress. Et c'est en ça que finalement l'objectif principal lorsque j'étais dans ce cabinet, c'était de facturer un maximum d'heures au client pour pouvoir rapporter le plus d'argent possible au cabinet. Et peu importe ce que je faisais. L'évaluation annuelle, on discute en deux minutes de l'intégration, est-ce que ça se passe bien dans l'équipe, oui, non, bon. Et puis ensuite, on regarde des graphiques, voilà le nombre d'heures travaillées dans l'année, le nombre d'heures facturées aux clients, le nombre d'heures par rapport à la moyenne des autres salariés de l'équipe, par rapport à la moyenne des autres avocats du cabinet, quels sont les objectifs à atteindre au 1er avril, quels sont les objectifs à atteindre au 1er août, quels sont les objectifs à atteindre au 1er décembre. Et on sait constamment si on est en retard ou pas. Je pense qu'il y a une image en fait qu'on associe et une image de ce qu'on veut être. Et puis après, une fois qu'on est dans la réalité des choses, dans la réalité du travail, à partir de là, on se rend compte et on se dit le matin en se regardant dans la glace, concrètement, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les conséquences de mes actions? Et finalement, une carte de visite, c'est rien. Je devais avoir 3 ou 4 mois de barreau et j'ai plaidé un dossier d'un salarié qui avait été licencié et qui contestait son licenciement et notamment se plaignait de faits de harcèlement. C'était quelqu'un qui travaillait dans un centre d'appel client et qui avait son travail constamment surveillé et où il était évalué tous les 3 jours sur la qualité de son travail. Et où on comptait et on décomptait à la seconde près les retards ou les temps de pause qu'il prenait dans la journée. Et donc je suis allé plaider ce dossier. Face à moi, il y avait un avocat et il y avait aussi ce jeune homme qui avait exactement le même âge que moi. Et donc j'ai plaidé le dossier de parfaite mauvaise foi sur le fait qu'il n'y avait aucun harcèlement en l'espèce, alors je savais très bien qu'il y en avait. Je suis sorti de l'audience et j'ai discuté un peu avec l'avocat en face et puis son client qui était présent également. Et je savais pertinemment que j'étais de mauvaise foi, je savais pertinemment que les faits de harcèlement étaient caractérisés, mais je savais aussi que juridiquement, il n'avait pas suffisamment de preuves concrètes pour arriver à ses fins. Et donc j'ai gagné le dossier, le conseil de prud'homme m'a donné gain de cause, mais je savais que, au-delà de la justice, la personne qui avait contesté son licenciement et qui souhaitait simplement être établie dans ses droits ne le saurait pas, aussi à cause de moi. Et donc je me suis dit finalement que c'était aussi à cause de moi que cette personne avait perdu son travail et que cette personne n'allait pas pouvoir voir son préjudice indemnisé, alors que, en toute équité et en toute vérité, il aurait dû être indemnisé. Ben, je me suis senti très mal. J'avais passé énormément de temps à préparer ma plaidoirie et j'y avais mis beaucoup de cœur, aussi parce que je venais d'être avocat et parce que c'était important de connaître sur le bout des doigts ce dossier. Et finalement, la victoire avait un goût amer. Et donc, c'est finalement cette déconnexion du facteur humain qui était épouvantable et qui était très difficile à vivre au quotidien. Quand je rentrais le soir, j'avais besoin d'y réfléchir pendant 2 heures, de me remettre totalement en question sur ce que je faisais. C'était quelque chose que je gardais beaucoup pour moi. Bien évidemment, je pouvais pas le dire directement et ouvertement à mes patrons. Je le partageais un peu avec ma famille et mon cercle d'amis privés. Mais pas tant que ça. Puisque de toute façon, je voulais pas trop en dire, puisque je savais que eux seraient complètement dégoûtés par ce que je faisais. On rentre dans une sorte de dépression. Franchement, on rentre dans une sorte de dépression, ça arrive. Moi, je faisais beaucoup de sport avant, j'ai dû arrêter totalement de faire du sport, donc j'ai pris du poids. Et de toute façon, lorsque on a travaillé toute la journée et qu'on rentre chez soi à 22h, on a juste envie de prendre une douche et de se coucher, rien d'autre. Un soir, à 21h, fin d'une journée de travail, j'ai fait un malaise vagal, j'ai perdu connaissance pendant une dizaine de minutes et j'ai été transporté à l'hôpital, chose qui m'était jamais arrivée. Et donc, c'était un peu flippant, et c'est vrai que ça a été un bon déclic de me dire, si à 25 ans, je commence à être épuisé par mon travail, il faut que je ralentisse la cadence, et en tout cas, il faut que je me pose des questions sur ce que je fais. Et c'est vrai que toute cette réflexion sur... cette dichotomie entre mes convictions et la réalité de mon travail, elle a été appuyée aussi parce que physiquement, je sentais que ça devenait difficile. Donc c'est comme ça que j'ai décidé, après toute cette réflexion personnelle, de passer de l'autre côté de la barre, de défendre les salariés, les syndicats, les représentants du personnel. Ça a été une annonce assez brutale auprès de mes patrons. Ça a été quelque chose de totalement incompris. Ça a été quelque chose d'assez difficile à vivre. Il y avait des gens qui me faisaient confiance et qui, je pense, ont vraiment vécu comme une trahison mon départ. Toutes les personnes avec lesquelles je travaillais, quasiment sans exception, m'ont dit que c'était une erreur de carrière et une erreur professionnelle. Mon patron qui m'avait recruté, avec lequel je m'entendais bien, et qui, je pense, me voyait bien évoluer dans ce cabinet, m'a dit le jour où je lui ai annoncé ma démission, que dans ce cabinet, j'étais dans une berline de luxe sur une autoroute, et que le choix que je faisais, c'était de prendre un chemin boueux en 2 chevaux. Et que j'allais m'en mordre les doigts, et que je reviendrais pleurer pour qu'on me reprenne dans 6 mois. Eh ben non, en y réfléchissant, en revenant sur mon parcours, en revenant sur tout depuis mon enfance, je me dis, ben non, c'est mon choix, il est bon. Et en tout cas, il correspond véritablement à ce que je veux faire de ma vie. Une affaire que j'ai eue depuis que je suis avocat salarié qui a été très marquante pour moi, c'est donc j'ai défendu une personne qui a été injustement licenciée de son emploi pour des faits de harcèlement, donc on le qualifiait lui de harceleur pour le coup, qui était un motif totalement inventé par la société parce qu'il était gênant, parce qu'il posait des questions en termes de revendications salariales qui embêtaient tout simplement l'employeur. Et donc, on a contesté son licenciement devant le conseil de prud'homme. Lui, ce qui l'intéressait, c'était d'avoir un jugement sur le motif, enfin l'absence de motif de son licenciement, de pouvoir sortir définitivement de cette relation dignement en étant rétabli dans son honneur, chose faite puisqu'on a gagné. Et c'était très important. Et ça a été vraiment gratifiant pour moi de me dire, voilà, j'ai pu l'aider finalement à être rétabli dans sa dignité, dans son honneur. Et ça, véritablement, voilà, peu importe le temps que j'y ai passé et peu importe à quel point je me suis engagé dans ce dossier, je sens que j'ai été utile. C'est ce que je voulais au départ. Et en fait, finalement, je pense qu'en étant avocat en droit du travail, côté salarié tel que je suis aujourd'hui, je suis passé d'un avocat commerçant à un avocat militant. Et c'est finalement ce qui est le plus gratifiant pour moi, et c'est ce qui me permet tous les matins de me regarder dans la glace et de savoir ce que je fais et pourquoi je vais travailler.
France Culture, les pieds sur terre.
Celle qui est devenue ma meilleure amie m'a trahi au début de notre amitié. Donc l'histoire, elle remonte à il y a longtemps. On était à l'école ensemble, on était dans une école où il y avait beaucoup de compétitions. Et on devait monter des projets. Et il y a un matin, moi je ne me suis pas levée, je ne suis pas allée à l'école. D'habitude, c'est elle qui ne se levait pas. Et en mon absence, moi le projet que je défendais, qui était objectivement bien, je pense qu'était un des projets les plus excitants, a été démonté par un petit groupe d'étudiants qui a sollicité les professeurs pour demander à ce que mon projet ne soit pas soutenu par l'école, ne soit pas présenté. Elle s'est alliée à ce groupe d'étudiants. Ça s'est passé un matin et en fait, je l'ai su le midi et je suis... J'ai une réaction physique assez intense parce que je suis tombée malade, j'ai fait une fièvre, j'ai été 2 jours couchée avec de la fièvre, j'ai fait une sorte d'angine blanche. Mais dans l'heure qui a suivi, je me suis couchée, je ne suis pas allée en cours pendant 2 jours et je ne lui ai pas vraiment parlé, je crois, pendant 2 jours. Et c'est qu'après qu'on a pu commencer à en parler et surtout que j'ai interrogé tout le monde, qu'est-ce qui s'était passé à cette réunion, quoi. C'était une réunion vraiment de déclaration de guerre à mon encontre. C'était un choc, c'était une nouvelle amie, mais c'était un coup de foudre amical. On s'était rencontrés l'année d'avant, on habitait ensemble à plusieurs amis, on partageait tout. J'ai assez vite compris qu'elle avait été entraînée et sans doute manipulée par un des leaders de la promotion. Il y avait peut-être de sa part aussi, il y avait beaucoup d'amitié, mais aussi beaucoup de jalousie, puisque c'était la dernière année de l'école. On allait rentrer sur le marché du travail, la question des stages et de la notoriété commençait à être importante. Et pourquoi je lui ai pardonné ? Je pense que c'était le début peut-être d'une amitié plus mature. Je l'ai acceptée comme elle était. Mais ce qui est sûr, c'est que j'attendais d'une amie, et j'attends toujours d'une amie, qu'elle me défende coûte que coûte publiquement, même si en privé on peut dire t'as fait une connerie, ce que t'as fait c'est pas bien. Elle l'a pas fait, pour moi ça reste quelque chose dans notre histoire qui ne fait pas que je l'aime ni plus ni moins, en tout cas pas moins. Et tout ça est quand même assez intéressant ou assez bizarre parce que je trouve que je peux trouver des excuses à la trahison en amour. Quand ton mec ou ta nana t'a trompé, a couché avec quelqu'un d'autre, ça a été, c'est des choses qui font partie des parcours, des faiblesses. Mais l'amitié, là, c'est quand même ce qu'on demande, ce qu'on attend d'un ami, c'est qu'il soit de ton côté tout le temps. Elle ne l'a pas été à ce moment-là et ça fait partie de notre histoire. Mais je suis vraiment contente de l'avoir gardé comme ami et qu'on soit resté amis. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très important dans ma vie et j'ai aucune gloire de ce pardon. C'est pas un pardon chrétien en disant elle a fauté et moi je suis au-dessus d'elle donc je vais lui pardonner. Non, ça s'est imposé. C'est un pardon qui est venu parce que je l'ai accepté comme elle était, avec cette petite faiblesse ou cette petite fragilité.
thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. With my hands I could be here. There must have paid her a nice price. She's putting on a string being love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Trahison, un reportage de Delphine Dilly, réalisé par Perret Legras. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production. Philippine Lebray, notre stagiaire. Merci à Alexandre, à Rachel, à Blandine, à Grégoire, à Mia, à Renzo, à Daniel, à Camille et à Rina, avec un clin d'œil à Delphine Morel. Vos commentaires, vos réactions, vos suggestions, tout ce que vous voulez nous dire ou savoir, franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, partager nos émissions si elles vous ont intéressé, les commenter et en dire ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de France Culture, bien sûr. Restez sur notre chaîne, il n'y a pas que les pieds sur terre.